Radio Kapi.
Environ 20 morts, des maisons incendiées et des bêtes pillées. Bilan des combats entre l'armée et la milice FPIC le week-end dans 4 localités du territoire d'Irumu dans l'Ituri. Toutefois, l'armée a reconquis 2 localités, bastion de l'ennemi, a dit le porte-parole de l'armée en Ituri. C'est aujourd'hui que seront connus les membres du bureau définitif du Sénat. Pas d'enjeu majeur pour les postes du président et du rapporteur, les candidatures étant uniques. Et non concerné par cette élection, le poste de premier vice-président, car Sami Badibanga n'a pas fait l'objet de pétition qui a fait tomber le bureau de Tambo Mwamba. 30 cas de messages et discours haineux propagés en RDC entre mai et décembre 2020. C'est ce qui ressort du rapport publié hier par le bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme. Pour en parler, nous recevons Abdelaziz Thioy, le directeur de cette institution. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. 19 personnes sont mortes dans les combats qui ont opposé le week-end dernier des militaires FARDC aux miliciens de la Force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC. Ces affrontements se sont déroulés dans 4 localités de la chefferie de Babelebe dans le territoire d'Irumu. Selon le porte-parole des FARDC en Ituri, l'armée a reconquis 2 localités considérées comme le bastion de l'ennemi. Par ailleurs, des sources locales déplorent l'incendie de 20 maisons et le pillage systématique des bêtes par les miliciens en fuite, ainsi que le déplacement massif de la population. Le récit de Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis le week-end dernier que des affrontements opposent les forces armées de la République aux miliciens des forces patriotiques et intégrationnistes du Congo FPIC au village de Kunda, Mwanga, Babunya et Magalabo. Des tirs nourris d'armes ont été entendus presque toute la journée des samedis et dimanches à la périphérie des zones de combat en chefferie de Babelebe à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bunia. Le bilan de cette attaque fait état de 3 militaires FARDC morts et 16 miliciens neutralisés ainsi que 2 armes PKM et AK-47 récupérées, rapporte le porte-parole de l'armée. Le lieutenant Jules Ngongo affirme la conquête des 2 bastions de l'ennemi. De leur fuite, ces miliciens ont réussi à mettre les feux sur une vingtaine de maisons et emporter plusieurs biens dont des bêtes abandonnées par la population. La société civile de Chari ajoute que 2 miliciens de la FPIC ont été également lynchés dimanche par une foule en colère dans le groupement Bavandi sur le pont Chari à 7 km de la ville de Bunia. Signalons qu'il n'y a pas eu de pertes en vies humaines du côté des civils. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Du côté du Nord Kivu, le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, condamne les dernières attaques perpétrées par les rebelles ADF dans les territoires de Beni au Nord Kivu et Irumu en Ituri, des attaques ayant coûté la vie à une trentaine de civils en une semaine, tout en saluant la bravoure des FARDC dans la lutte contre les ADF. Cette structure de défense des droits humains encourage l'initiative du chef de l'État et président de l'Union africaine dans l'organisation du sommet pour la paix en Afrique, ceci en vue de lutter contre le terrorisme au niveau du continent, a dit Maître Omar Kavota, vice-président du conseil d'administration du CEPADO. Il est au téléphone d'André Kitenge.
Nous avons, par exemple, sur l'axe routier Beni-Kassindi, déploré les attaques à Kisima, à Makisabo et au nord du territoire de Beni. Nous avons déploré le week-end les attaques à Kainama, à Bouakadi. Et lorsque nous procédons à la sommation, y compris les cas qui ont été observés à Oicha, à Kokola, à Moussandaba, nous sommes à plus ou moins 32 civils qui ont été massacrés. Et nous fustigeons ces attaques de terroristes ADF. Nous voudrions ici saluer la promptitude dans la réaction des FARDC chaque fois qu'elles étaient alertées. Et par cette occasion, nous voudrions encourager l'initiative du président de la République, président de l'Union africaine, dans l'organisation du sommet pour la paix en Afrique, en vue de lutter contre le terrorisme émergent au niveau du continent. Nous sommes en train de suggérer qu'au cours de ce sommet, la question du terrorisme à Beni et en territoire du Rumu soit suffisamment évoquée.
Par ailleurs, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans le territoire des Nyunzu, province du Tanganyika. C'est le député national Emmanuel Mukundi qui tire la sonnette d'alarme. En vacances parlementaires sur place, il signale que les milices continuent à tuer, à violer et à piller en toute impunité. L'élu de Nyunzu plaide aussi pour la réhabilitation des routes de desserte agricole qui sont dans un mauvais état. Le député Emmanuel Mukundi joint par Alain Rungushinj.
Les grandes difficultés, c'est encore l'insécurité, et toujours l'insécurité. À Nyonzou, collectivité du Nord-Lukuga, précisément le groupement Bangobango et Bakalangade, où les forces négatives continuent à tuer, à violer, à matraquer la population. Et donc la population demande au gouvernement de faire taire les armes le plus vite que possible. Deuxièmement, c'est les mauvais états de route pour quitter Kalemie, chef-lieu de la province de Tanganyika, jusqu'à Nyonzou. Il y a ceux qui font 10-15 jours, particulièrement dans les villages Nyemba, où la route est extrêmement détruite. Aussi, il y a les pleurs de travailleurs ou des fonctionnaires de l'État, notamment les corps médicaux, les enseignants et les autres. La plupart sont NU, alors ils sont impayés, ce qui pose d'énormes problèmes. Voilà pourquoi la population de Nyonzou demande au gouvernement de pouvoir faire tout pour pouvoir payer ses enseignants, réhabiliter les routes et surtout arrêter la guerre qui a tué des milliers et des milliers de citoyens.
Entre-temps, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a publié un rapport hier dans lequel il dit avoir documenté 30 cas de messages et discours haineux propagés en RDC, et cela entre mai et décembre 2020. Cette organisation attire l'attention dans ce rapport sur la gravité de la situation et les risques potentiels d'escalade dans un pays encore fragile comme la RDC. Les détails avec Honoré Missinga Kalala.
Selon le rapport du bureau conjoint, les discours et messages d'incitation à la haine documentés ont la forme d'attaques tribalistes, sexistes et misogynes. Ils proviennent des personnalités et des militants des partis politiques, des leaders communautaires, d'acteurs de la société civile et de membres de la diaspora congolaise. La plupart de ces discours ont été diffusés dans le cadre d'activités politiques ou partisanes et des conflits armés. Et selon l'organisation, les discours haineux sont véhiculés par les réseaux sociaux, les radios locales, les tracts et la presse écrite et constituent une préoccupation majeure, particulièrement depuis la fin des élections du 30 décembre 2018. Dans le cadre de la compétition pour le pouvoir, le rapport du bureau conjoint retient deux cas phares, celui d'une vidéo contenant le logo de la Mouka diffusée en septembre 2020 et invitant à la haine contre les Loubas. Mais le bureau conjoint précise qu'il n'a pas été en mesure de confirmer la véracité de l'appartenance. Et le deuxième cas, celui de la diffusion en décembre 2020 dans la province du Lualaba, des messages incitant à la haine contre les populations originaires du Kassai. Le premier de ces messages a été diffusé le 11 septembre sur les réseaux sociaux par un ancien président de la CENI et proche de l'ancien président de la République, précise le rapport du bureau conjoint.
Je vous le disais en titre, les sénateurs vont élire aujourd'hui 2 mars les membres qui devront composer le bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Si ces élections sont sans enjeu majeur pour les postes du président et du rapporteur où les candidatures sont uniques, les urnes devront par ailleurs départager 3 candidats pour le poste du deuxième vice-président, 4 pour le rapporteur adjoint et 5 autres se disputeront le siège de questeur, tandis que 3 candidats sont en lice pour le poste de questeur adjoint. Mais déjà les voix s'élèvent pour appeler les sénateurs à élire des personnes qui incarnent réellement le changement. C'est le cas de Joseph Bangakia, vice-gouverneur honoraire de l'ex-province orientale, qui suit de près ces élections. Il est au micro de Jacques-Yves Molima.
Le peuple congolais dans son ensemble attend du changement. Ce sont des attentes très fortes de changement. Lorsqu'on parle de changement, les profils des membres du prochain bureau seront scrutés de près. Jusqu'à ce jour, il y a eu un nouveau bureau à l'Assemblée nationale, il y a eu un nouveau Premier ministre. L'opinion populaire a bien accueilli ces nominations ou ces élections. Certainement que les sénateurs seront au rendez-vous pour offrir à la nation un bureau aussi bien accueilli par la population. Et c'est vrai que la nécessité de la représentativité géopolitique compte énormément, car le Sénat représente les provinces. C'est l'occasion d'élire une personne qui réellement représentera la province. C'est important et je sais qu'au Sénat, ces questions sont importantes.
Sachez aussi que cette élection ne concerne pas le siège du premier vice-président. Sami Badibanga de l'ancien bureau n'avait pas fait l'objet de pétition qui a fait tomber le bureau de Tambwe Mwamba. Dans l'actualité, sachez aussi que le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé poursuit ses consultations. Hier, il a reçu notamment la délégation des artistes musiciens. Ces derniers ont, par leur porte-parole, Jussar Nyokalongo, président du groupe Zaiko Langalanga, plaidé pour que le prochain ministre de la Culture puisse être un homme de culture. Une autre délégation qui a été reçue par le premier ministre est celle du groupe de 13 personnalités. Selon le député national Deli Sesanga qui a parlé au nom du groupe, l'Union sacrée ne doit pas se reposer sur le partage équitable et équilibré du pouvoir, mais elle doit plutôt conduire le pays à des réformes. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, le peuple attend toujours. Tel est l'intitulé du message des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Dans ce message publié hier à Kinshasa, les princes de l'Église se félicitent notamment de la fin de la coalition et de la mise en place des nouveaux animateurs des institutions de la République. Parmi les recommandations, la CENCO souhaite que le tout prochain gouvernement soit efficace afin de prendre en compte les cris de la population qui croupit dans la misère et aussi de régulariser la situation des enseignants afin de consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement de base. Les évêques demandent aussi au gouvernement d'inscrire parmi les priorités les réformes électorales, notamment pour consolider la gouvernance électorale et la démocratie. Écoutez plutôt l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la CENCO, expliciter le message des évêques. Il est joint par Alain Rungmushinj.
Le titre est subjectif, c'est avec cette parole qu'on entre généralement dans le carême qui est une période chère aux chrétiens catholiques. Ici, je crois que les évêques veulent attirer l'attention en ce qui concerne la situation sociopolitique aux acteurs politiques en leur rappelant que le peuple attend toujours le changement. On a déploré une coalition qui était inefficace. On a vu une nouvelle dynamique naître, celle de l'union sacrée de la nation. On a vu une adhésion massive des gens qui ont traversé d'un camp à un autre. Les évêques, en prophète, en pasteur, ils sont en train d'attirer l'attention de ceux-là. Il ne suffit pas de changer de camp politique. Encore faut-il combattre les antivaleurs. Donc, le fait de quitter, par exemple, le FCC, l'Union sacrée de la nation, ne signifie pas qu'on devient automatiquement bon. Et voilà pourquoi les évêques tiennent à faire que le membre du prochain gouvernement soit des gens qui sont dans la métier, la moralité est éprouvée par rapport à leur passé et qui ont la compétence. C'est pour arriver au changement que le peuple attend encore.
La RDC accueille du 1er au 7 mars prochain ses premières doses de vaccins contre le coronavirus. Information donnée le week-end dernier à Kinshasa au cours de l'atelier organisé par le programme élargi de vaccination PEV sous les auspices du ministère de la Santé. Atelier sur la mise en place des stratégies de communication pour l'introduction du vaccin contre cette pandémie. À cette occasion, le directeur du PEV a indiqué que la première campagne de vaccination visera le personnel soignant, les personnes âgées et celles présentant un haut risque. Elisabeth Kamba explique le but de la rencontre et les détails du processus qui conduira à la vaccination. Elle est au micro de Jean-Pierre Ilali Koko.
Nous nous sommes réunis pour échanger et trouver un consensus sur la manière dont l'un des axes pour la lutte contre la COVID va être intégré et dans le système de santé. Et cet axe, c'est la vaccination contre la maladie à coronavirus. Donc c'était essentiellement retenir déjà les sites de vaccination, comment on va les implanter en RDC, comment au niveau du site les tâches seront reparties, comment on va identifier les cibles prioritaires. Ce n'est pas tout le monde qui va bénéficier de cette vaccination d'abord, ce n'est pas une vaccination qui est obligatoire.
L'actualité, c'est aussi le lancement hier à Kinshasa des activités du mois de mars dédiées à la femme par la ministre du Genre, Famille et Enfants. Cette série d'activités visant l'autonomisation des femmes seront exécutées dans un contexte particulier, celui de la pandémie à coronavirus. Sarah Soumbela était sur place. Suivez son reportage.
Madame Béatrice Lomeya Atilité a annoncé le thème retenu pour cette année 2021. C'est le leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la COVID-19. Pour elle, la RDC va commémorer cette journée et continuer à soutenir les activités de la femme pour son autonomisation.
Il y aura des activités, mais dans le respect des mesures barrières qui contribuent à arrêter la propagation de la pandémie.
Pour Madame Angèle Mamba, directeur à la réglementation et contentieux du commerce extérieur, l'autonomisation par moyens numériques avec cette pandémie, c'est encore plus compliqué, surtout pour les femmes qui vivent aux endroits reculés.
Moi, j'aimerais tout d'abord que ces messages, on puisse les répercuter sur toutes les chaînes nationales, dans toutes les langues, les quatre langues officielles. Et comme ça, ça peut arriver à ces femmes-là. Et demander aux autorités administratives de tous ces coins de répercuter aussi les messages. Parce que si ça se limite seulement à Kinshasa, on n'a rien fait.
Signalons que le thème international de cette année est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes en France. Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans de prison, dont un ferme. L'ancien président français, présent pour le verdict de son jugement au tribunal correctionnel de Paris hier, a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes avec son avocat historique. Nicolas Sarkozy est ainsi le premier ancien président de la Ve République condamné pour corruption. Il est également le deuxième ex-chef de l'État à être sanctionné par la justice après son ancien mentor Jacques Chirac, condamné en décembre 2011 à 2 ans de prison dans le dossier des emplois fictifs de la ville de Paris. Les juges ont condamné à la même peine l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert et l'avocat historique de l'ex-président Thierry Herzog, avec 5 ans d'interdiction professionnelle pour ce dernier. Ils ont également été reconnus coupables de violation du secret professionnel.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Abdelaziz Tioy, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Il s'exprime sur le rapport publié hier 1er mars où cette institution a documenté entre mai et décembre 2020 30 cas de messages et discours haineux propagés en RDC. Abdelaziz Tioy est avec Honoré Missenga Kalala.
Directeur Abdelaziz Tioy, bonjour.
Bonjour.
Votre bureau vient de publier un rapport sur les discours et messages incitatifs à la haine en RDC Congo. D'abord, comment vous définissez le concept lui-même, discours ou messages incitatifs à la haine?
Je voudrais d'emblée dire qu'il faut distinguer deux choses différentes, le discours à la haine et l'incitation à la haine. On parle de discours de haine lorsqu'on est en face d'une communication qui est stéréotypée, stigmatisante, offensante, incendiaire, péjorative, discriminatoire, humiliante, dégradante, dénigrante contre une personne ou un groupe à cause de son identité. Il peut s'agir de l'identité religieuse, de l'ethnie, de la race, de la nationalité, de la couleur, de la peau, de l'ascendance et du genre. Ça, c'est une caractérisation. On n'a pas de définition à proprement parler dans le droit international des droits de l'homme, mais dans la dernière stratégie des Nations Unies sur le discours de haine, il y a une définition qui a été proposée par la stratégie des Nations Unies qui a été, comme vous le savez, publiée par le secrétaire général, qui a nommé un point focal et qui a demandé à toutes les missions de maintien de la paix et toutes les Nations Unies de travailler à soutenir les différents pays, à développer des stratégies pour lutter contre les discours de haine. Bon, en ce qui concerne l'incitation à la haine, il s'agit de la situation où vous avez quelqu'un, en général une personne influente, profère un discours ou diffuse un discours dans le but d'amener, d'encourager son audience à agir contre un groupe à cause de son identité nationale, raciale ou religieuse.
Alors, en ce qui concerne le cas de votre rapport, s'agit-il des discours de haine ou des discours d'incitation à la haine ou les deux à la fois?
C'est la première fois que nous avons trouvé nécessaire, ici en RDC, de développer cette thématique-là compte tenu du contexte politique et social. Je ne vous apprends rien. Vous avez tous suivi à foison les discours et les messages qui sont diffusés à travers les réseaux sociaux, aux cours de prêche qui sont diffusés à travers certains médias sociaux. Je peux prendre l'exemple de la dernière campagne électorale à l'occasion des élections présidentielles et législatives où vous avez entendu certains acteurs politiques sur le terrain stigmatiser des candidats en fonction de leur appartenance ethnique, régionale ou autre. Et nous l'avions à l'époque d'ailleurs mentionné dans le rapport que nous avions adressé au Conseil des droits de l'homme. Donc, le discours de haine précède l'incitation. Les discours qui incitent à la haine sont en effet beaucoup plus dangereux, ça c'est clair.
Quel parallélisme on peut faire entre les discours incitatifs à la haine d'une part et d'autre part la liberté d'expression?
C'est extrêmement important et d'ailleurs c'est ce qui a motivé le Haut Commissariat à organiser ce qu'on appelle une conférence à Rabat qui aboutit à ce qu'on appelle le plan d'action de Rabat. Il était important de trouver, de déterminer ce qu'on appelle la notion de seuil. La liberté d'expression, comme vous le savez, n'est pas absolue. Il y a des limitations qui sont acceptables, mais qui sont effectivement liées au fait que le discours peut porter atteinte à la liberté d'opinion, mais aussi inciter à la haine ou à la violence ou entraîner une discrimination. Donc, il est très important de rappeler que la lutte contre le discours n'est pas un prétexte pour empiéter sur les droits et libertés. Donc, il faut éviter la pénalisation en voulant lutter contre les discours de haine et l'incitation à la haine, en même temps limiter de façon non nécessaire, non légitime, le droit à la liberté d'expression. Vous êtes journaliste, la tentation elle est très forte quelquefois pour certaines autorités de prendre le prétexte de la diffusion de messages à caractère discriminatoires ou à caractère haineux pour réellement vous contraindre en raison de votre code de déontologie et décider que voilà, vous avez failli au cahier des charges, donc vous êtes suspendu. Il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber dans la pénalisation, mais il faut de façon très claire lutter efficacement contre les discours de haine en vue aussi de protéger davantage la liberté d'expression.
Alors, dernière question, l'auteur, en termes de recommandations, que propose le bureau conjoint pour combattre ce fléau dans un contexte encore aussi fragile qui est celui de la RDC?
Nous proposons une panoplie de recommandations au gouvernement, au Parlement, aux acteurs politiques et religieux, aux médias, aux cours et tribunaux, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, mais également à la CGT civile. Globalement, on peut dire que le rapport recommande aux autorités de renforcer la lutte contre l'impunité pour les violations et abus des droits de l'homme. Parce que c'est l'impunité qui sert de prétexte au développement et à la diffusion de toutes sortes de messages.
Abdulaziz Thioy, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme répondait aux questions d'Honoré Missenga Kalala. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.